Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Faire ça de façon médicale. Je vais vous faire une piqûre. Il prend une seringue qui est sur la table de nuit avec une boîte en fer. Je soulève le bras. Une infirmière le lave avec un contour d'alcool et le pique. Daniel sent une grande douleur, quelque chose de chaud dans son bras et qui tout à coup. Il se sent reposé. Puis, là, il a sommeil, ferme les yeux, puis mal à la tête terrible. Et d'un coup,
je te laisse, madame. Tu peux fermer.
Trou noir. Le médecin demande, il est mort? L'infirmière touche le pouls et dit, non. Dit, comment? Vite, dans la salle. On pousse le lit dans la pièce à côté, où il y a l'ordinateur. On le met à côté de l'ordinateur. Là, c'est plus simple puisque la personne n'est pas morte. Il n'y a pas besoin de nettoyer le cerveau et d'essayer de le remettre en vie. Il suffit de le brancher à l'ordinateur. L'ordinateur reçoit les messages et essaye de les lire en décodant, en essayant de reconnaître le langage du cerveau. Puis, il essaye de voir dans la mémoire les restes de mémoire. Facile, parce que le cerveau est dans le coma, donc inactif normalement. Après une semaine de dur labeur de 24 heures sur 24, on réussit à avoir des informations que l'on veut. On le décrypte en vidéo et on voit les dernières scènes du crime. Georges Dedot passe à la porte, Daniel lui lançant un projectile. Où la main de Daniel lui lançait un projectile, George qui tombe à terre à la renverse. La main de Daniel qui a un revolver et tire, puis se penche sur lui, s'éloigne, marche en reculant, va vers après Daniel, ce que ses yeux voient, mais je ne vois pas. Sûrement téléphone. Puis à la cuisine prépare repas et repas. Dormir. Jusqu'à ce qu'il aille contre. Se baisse contre le cadavre. Gilbert. Toutes ces scènes ont été copiées en vidéo. Et on donne au juge les vidéos. Le juge va voir le procureur avec la vidéo. Preuve du crime. Le procureur lui dit, sera jugé coupable à cause de cette preuve. Vous, l'avocat de la défense, vous m'apportez la preuve de sa culpabilité. Vous n'aviez pas le droit. Maître Tessier lui dit, je vous apporte la preuve qu'il est coupable. Mais en vous disant que cette preuve ne peut être utilisée parce que les copies, photographies, films, vidéos, etc., bandes magnétiques ne peuvent être des preuves puisqu'elles peuvent être truquées. Donc la preuve que je vous donne ne peut être considérée comme une preuve. Le procureur lui demande, alors pourquoi avez-vous fait faire tout ça et risquer votre client la mort ou la paralysie? Il lui dit, par esprit de justice. Pour arriver à la justice doit faire, même, doit tout faire, même risquer la vie de la personne qu'elle défend. J'ai fait ça, c'est pour vous prouver que vous, vous avez agi comme moi. Votre témoignage ne vaut rien puisqu'il est sur vidéo. Le procureur lui dit, on pourrait se faire témoigner le cerveau de la victime au procès. Mais Tessier lui dit, il le ferait par l'intermédiaire de la machine illégale. Le procureur lui dit, est tout de même coupable, il faut faire quelque justice. Mais Tessier lui dit, il est coupable, mais vous n'avez pas légalement de preuves. Parce que c'est illégal ce que vous avez fait. Jamais on n'a fait témoigner un mort. Si nous faisons, où allons-nous? Et puis, un mort peut-être mentir. Qui nous prouve qu'il ne peut pas mentir? Personne ne peut le certifier. On lui demande, que faire? Mais Tessier lui dit, remettre en liberté l'accusé par manque de preuves et clore l'affaire. Le procureur lui dit, donnons-lui tout de même une peine, une amende. Mais Tessier lui dit, il aura à payer les frais de tout ça, et même de sa mise en coma, plus des dommages et intérêts à Gilbert Framblant. Le procureur lui dit, très bien. être texier quand vote la presse dans son bureau. Le procès n'aura pas lieu. Mon client sera acquitté. J'ai prouvé qu'il était illégal de l'accuser d'un crime sans preuve. Le journaliste lui demande. On l'a bien accusé d'être homosexuel. Mais Tétier lui fait Daniel est en réanimation, soins intenses, il reste un mois dans le coma. Il est réveillé. Il a fallu se le mettre dans une maison spécialisée pour le remettre d'aplomb. Maître Tétier lui a écrit une lettre. Barnier, vous êtes libre et devez payer tous les frais et dommages intérêts à Gilbert Franblanc, plus mes honoraires à moi, qui sont de 700 000 francs. Merci. Gilbert reçoit la nouvelle par Texier qui est venu le lui dire lui-même. Il reçoit dans son salon. Maître Texier lui dit « J'ai été aussi votre avocat. J'ai bien défendu votre cause. Je me permets, c'est de vous demander mes honoraires. 50 000 francs. » Gilbert est surpris. « Je ne comprends pas. J'ai travaillé pour vous. Ça mérite. » Une récompense, non. Mais je ne vous ai rien dit. Vous n'avez pas à me le dire. La justice est là pour ça. Gilbert lui dit, bien, je vous paye, mais je trouve ça pas très légal, tout. Maître Tétier lui dit, l'accusation de Daniel non plus. Mais il était coupable. Ce n'est pas une raison. L'on est coupable si c'est fait dans les règles. Et innocence n'a pas enfreint les règles de la magistrature. J'ai tué, mais j'étais dans les légalités, ou je suis resté dans la légalité. Ce qui veut dire que légalement, on n'a rien à me reprocher. Le crime parfait, c'est cela. Il faut tuer en trouvant un moyen pour qu'on ne puisse pas vous accuser, même si on sait que c'est vous. Parce que c'est illégal de le faire. Gilbert lui dit, c'est ce qui s'est passé. Là, non. Là, c'est la justice qui s'est mise dans le mauvais pétrin toute seule. Elle s'est liée les mains d'elle-même. Et c'est moi qui ai dévoilé cette injustice, que la justice était dans l'illégalité. Je mérite bien un salaire pour ça, non ? Gilbert lui dit, bien, ça va. La prochaine fois, si c'est moi qui tue quelqu'un, je vous appelle pour me défendre. » Etier lui dit, « Si vous êtes vraiment coupable, oui. » Gilbert va voir Natalia sortie de ses cours pour lui annoncer la nouvelle. Elle lui dit, l'affaire est close. Elle lui dit, j'en suis très heureuse. Gilbert lui demande, maintenant tu peux me le dire, tu as eu une aventure avec Georges. Elle lui dit, tu vas pas recommencer. Non, il n'était qu'un ami, rien d'autre. Mais il voulait plus. Mais moi, je lui ai dit non, plusieurs fois. Gilbert lui demande, vous êtes vus souvent? Mignon, idiot, on se voyait que lorsque nous étions ensemble. Il soupire et lui dit, mais tout de même pas être jaloux d'un mort, tout de même. Gilbert lui dit, non, et puis cette histoire est finie. De Gilbert lui demande un jour qu'il est chez ses parents. Tu vois Natalie?
Oui.
Après ce qu'elle t'a fait?
Mais elle m'a rien fait.
La mère est furieuse. Elle aurait aimé qu'il ne la revoie plus. Le père est heureux que cette histoire soit finie. Julien aussi. Et Julien dit à Gilbert, c'est bizarre, puis il y a une chose étrange, c'est que la clinique Jeune Tout Pontois, qui est à ton père, a joué un si grand rôle là-dedans. Peut-être que ton père t'a un peu aidé. Gilbert lui dit, mais non, c'est le hasard. Malgré tout, cette histoire risque de faire la transformer la loi de la justice, car désormais, l'on connaît un détecteur de mensonges qui est presque à 100% efficace. Il suffit de faire revivre le crime par le mort pour savoir quel est le coupable. Les juristes vont s'intéresser à ça et rendre légal ce genre de pratique. En dehors de la justice, il va y avoir un commerce juteux. Les pompes funèbres vont pouvoir vendre la vidéo des dernières images qu'aura vu l'être cher, etc., etc. Mais revenons à la justice. Et la mémoire qu'on a gardé d'un fait
peut-il être transformé? Comme nos rêves transforment la réalité, volontairement ou involontairement, cette transformation. Un grand rêveur, une personne qui se raconte des histoires, peut-être transformer ce qu'il a vécu, ou il peut garder en mémoire ce qu'il croit avoir vécu. Alors, ce système est-il bon, un bon détecteur de renseignements? Et puis la mémoire qui n'a enregistré ces derniers instants, mais de garder que d'autres moments qui peuvent faire croire que ça s'est passé comme ça. Heureusement qu'il y a des témoins accusés. Comme cela, l'on peut comparer les deux. Mais si les deux ne sont pas les mêmes, qui dit la vérité? On peut aussi, c'est faire ça, plusieurs témoins, faire avec plusieurs personnes. Mais l'assassin, qui sait comment ces choses se passent, il peut déconnecter la réalité. Les sons, les images des victimes et des témoins pour qu'on ne puisse pas voir son forfait. Exemple, en faisant regarder un film ou en leur mettant des lunettes 3D pour qu'ils voient et ressentent autre chose que la réalité. Donc malgré les progrès de la science, le crime parfait est encore possible. Les ingénieurs du groupe Juntou, qui font partie du groupe Framblanc, ont trouvé un appareil qui est une arme absolue. Monsieur Dutour veut présenter le nouveau produit à Maurice et à son siège. Monsieur Dutour est, comme vous le savez, PDG du groupe Pontoir Diap. C'est un homme de 50 ans, grand, mince, cheveux châtains. Depuis que le groupe Juntou Pontoir a vendu son siège à Framblanc, la direction se situe à Lyon, sur les quais de Saône, dans un bel immeuble tout en verre de 50 étages. Il entre dans le siège. Il va directement au bureau du Framblanc qui a prévenu les hôtesses. Une hôtesse va l'accompagner jusqu'à son bureau. Il faut rentrer dans le siège, une grande
jeune femme de 22 ans, blonde, tailleur rouge, va vers lui. Elle lui dit « Bonjour monsieur, je suis Chantal et c'est moi qui vais vous guider jusqu'à monsieur le président. J'espère que vous avez fait bon voyage. » Il lui dit « Oui, merci. » Et il la suit. Elle le mène jusqu'à l'ascenseur. Ascenseur privé du président, qui marche avec une carte spéciale. On peut s'asseoir, il y a une table basse pour écrire et un ordinateur. Arrivé à l'étage, ils sortent. Elle le conduit jusqu'à la porte du bureau du président. Après pouvoir appuyer sur le bouton, le voyant vert s'allume. Elle le fait entrer. Et ferme la porte. En voyant entrer, Boris se lève et va à lui. Il lui dit « Bonjour, monsieur le président. J'espère que vous avez fait bon voyage. »« Oui, très bien. Merci. Je suis arrivé en avion privé. » Boris le mène dans un coin du bureau qui fait salon. Assoyez-vous. Le fait asseoir dans un fauteuil de cuir noir et lui en face de lui. C'est devant une table basse. Maurice lui demande, vous désirez boire quelque chose? Monsieur Luthor lui dit, oui, merci. Maurice appuie sur la sonnette qui est sur la table et lui demande, vous voulez me parler de quelque chose? Monsieur Luthor lui dit, oui. Nos chercheurs ont réussi à faire une découverte qui va révolutionner le monde. Maurice fait « Ah !» Frappe à la porte. « Entrez !» C'est l'hôtesse. Il lui dit « Amenez les boissons, s'il vous plaît. »« Bien, monsieur !» Elle ferme la porte. Maurice demande « Qu'est-ce que c'est ?» Du tout, elle lui dit « L'âme absolue !» Frappe à la porte. Maurice fait « Entrez. » Entre l'hôtesse avec un bar chariot. Qu'elle mène jusqu'aux deux hommes. Maurice demande, qu'est-ce que vous prenez? Du tout, elle lui dit, un bonbon. Bien, deux bonbons. Et elle sert. Merci. Merci. Puis elle sort. Après avoir bu une gorgée, Maurice lui dit, je vous écoute. Luthor lui dit, voilà, nous avons fait une découverte. La découverte que nous avons faite est une, disons, l'arme absolue. Plus besoin de l'armée. Un plan de guerre. Propre, sans mort, sans démolition, sans bombardement, ni blessé, rien. Juste un satellite ou un avion au-dessus du pays ennemi. Il amasse toutes les informations sur les gens, métiers, adresses, famille, santé, police, goût, achat, compte en banque. Sur les gens et sur les entreprises. Sur le gouvernement, l'armée du pays. Il peut détruire toutes les informations, les virus, les ondes, les rayons laser, radars ou autres. plus de télévision, plus de téléphone, de radio, ordinateur. Tout ce qui marche avec les ondes, même l'électricité, le pays est paralysé, il n'a plus d'information. Ou celle qui passe, ce peut être que celle que le pays ennemi peut lui donner. Il ne peut plus rien faire. L'ennemi sait tout sur tous les gens. Et il peut tout stocker, les informations qui sont piratées dans le satellite. Ne peut plus, le pays ne peut rien faire. Il est paralysé. Il ne peut que se rendre. Le vainqueur prend le monopole des ondes et des informations. Il les vend très cher aux vaincus. Et en même temps que l'information, il a l'économie du pays. Information par les ondes. Voilà comment une guerre du XXe siècle se fera. Elle sera propre, sans mort ni blessé. Guerre moderne qui peut se faire, bien entendu, contre pays moderne. Pour ce qui est des autres, guerre classique, même à coup de hachette pour l'Afrique. Ce qui fait que si on veut attaquer un pays, il suffit tout simplement de prendre le monopole, de le paralyser par l'information, c'est-à-dire de paralyser toutes ses ondes. Oui, c'est formidable, le tour lui dit. Le satellite peut avant déclencher l'arrêt des ondes, prendre toutes les informations du pays, informatique, téléphonique, etc. Pendant quelque temps, il emmagasine des informations sur le pays et sur les habitants. Après, il arrête tout. Il sait tout sur eux et les fait chanter en leur vendant les ondes ou en les louant, tout en étant constamment sur écoute. Le pays ne peut rien faire sans que l'ennemi ne le sache. Le vainqueur a le monopole sur tout. Les transactions, la politique, la police, l'armée, le privé, la culture, l'enseignement. Puisque tout passe par les ondes et que l'on détient le pouvoir des ondes. On est le maître du monde. Voilà, un simple satellite au-dessus du pays, plus de besoin d'armée, d'armes, l'occupation du pays, rien, une guerre propre, pas de mort, juste la ruine, rien d'autre. C'est formidable, mais ça doit être cher. Dutour lui dit, non, pas du tout, pour paralyser les ondes, il faut peu de choses, mais il faut le savoir faire. Maurice lui dit, et qu'allons-nous faire de cette invention? Dutour lui dit, deux solutions. Ou nous la gardons pour nous, ou nous devenons le maître du monde, et nous devenons le maître du monde, ou nous la vendons à la France, ou plutôt louons, c'est mieux. Comme ça, nous gardons les brevets et les monopoles. Maurice demande, qu'est-ce qui est mieux? Que l'on garde pour nous. Maurice lui dit, eh bien, gardons là et devenons le maître du monde. Oui, bien sûr, mais nous ne sommes pas assez prêts et nous risquons, c'est de nous mettre à dos tous nos clients. Louons là la France comme ça, c'est nous qui en avons le monopole en faisant ce que nous voulons et c'est la France qui recevra les coups à notre place, c'est mieux. Maurice lui dit, oui, vous avez raison. Nous aurons les avantages et la France les ennuis. Je vais en parler au président. La chose est bien cachée. Oui, et personne ne peut savoir ce que c'est. Bien. et le lendemain, il téléphone au président pour un rendez-vous important. Le président lui dit « Demain, 19h, ça vous va ?»« Oui, très bien, monsieur le président, merci. » Le lendemain, à 19h, il va dans le bureau du président à l'Élysée.
Entrez.
Le président se lève et lui dit
« Venez vous asseoir, monsieur le président. »
Il va s'asseoir face au bureau. Le président lui dit « Je vous écoute. »
Eh bien voilà, je vais vous présenter, je présente à la France l'arme absolue.
Marc lui dit « C'est pas nouveau, à chaque fois ça s'est révélé ne pas être l'arme absolue. » Maurice lui dit,
mais cette fois, ça l'est. Il lui explique la chose.
Marc lui dit, c'est très intéressant, mais combien ça va coûter?
Maurice lui dit, pour la France, un franc symbolique.
Merci.
Maurice lui dit, mais attention, elle reste à nous. Nous vous la mettons à votre service, c'est tout.
Marc lui dit, la défense de la France vous revient alors?
Maurice lui dit, non, nous sommes, disons, des mercenaires ou des gardes suisses d'antan. Vous êtes l'arme qui est en nous, qui est à nous, et nous entretenons et faisons marcher cette arme. C'est vous qui donnez les ordres et c'est nous qui mettons en marche l'arme.
Le président lui dit,
Rick, l'armée ne va pas être contente. Elle va perdre le monopole de la défense.
Maurice lui dit, vous leur donnerez un rôle. Ils peuvent garder l'arme absolue. Mettre un régiment qui la garderait. Comme ça, l'armée, l'honneur de l'armée est sauve.
Maurice lui dit, vous avez raison. Et qu'allons-nous faire pour les pays?
Maurice lui dit, il faudra les prévenir en même temps que les Français, que vous possédez l'arme absolue.
Le président lui dit, bien, je ferai une allocution, comme ça le monde le saura.
Maurice lui dit, vous en dites le moins possible.
La France prévient ces pays qui détiennent l'arme absolue grâce au mot de Rembrandt. Il leur a fait matériel, satellite, ordinateur, etc. Guerre absolue avec 3 ou 4, même 10 personnes, on peut la faire. Les autres pays tremblent. L'Amérique dit que la bombe atomique est moins pire que ça. On dit que les Français peuvent s'emparer de tout un continent. Il suffit que celle-ci soit suffisamment haut et puissant. Et la France leur dit, nous faisons ce que nous voulons.
Les Occidentaux font des recherches pour ça. Mais ces armes sont brevetées franc-blanc et françaises. Donc ils doivent passer par la France pour les acheter. Et la France leur vend du matériel moins puissant que le leur. Les pays sous-développés disent que ce genre de guerre ne les concerne pas, puisqu'ils ne sont pas assez informatisés. Un satellite ne peut rien contre le son du tam-tam. Gilbert a envie de se changer d'idée et cherche à écrire une pièce de théâtre ou une nouvelle. S'enferme dans sa chambre pour écrire. C'est dur à trouver une histoire. L'histoire d'une jeune femme, grande, mince, blonde, habillée en combinaison blanche, qui habite avec son mari, un homme blond, qui a une combinaison bleu clair. Ils habitent une maison ultra moderne. Elle s'y ennuie. Tout est lisse, clair, il n'y a rien à faire. Qu'appuyer sur des boutons ou quand on entre dans une pièce, ça marche tout seul. Rien ne traîne. Des écrans de partout, des portes vitrées, etc. Son mari n'est jamais là. Ou s'il est là, il est devant son ordinateur à travailler ou à se distraire. Ils se parlent de moins en moins, à quoi bon, puisque lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, ils n'ont même pas à le demander. Lorsqu'ils partent en voyage,
ensemble, c'est tellement rapide et confortable, c'est comme s'ils n'étaient pas partis. Ils s'assoient sur des sièges qui ressemblent à ceux de leur maison et partent en soucoupe. Pour aller 500 km plus loin, dans une maison qui ressemble à celle qu'ils ont quittée. La température est toujours la même, le soleil aussi. Elle s'ennuie atrocement. Une nuit qu'elle est seule, ou que son mari dort, elle décide c'est de sortir prendre la soucoupe. Elle s'en va au hasard. En roulant, elle se sent plus libre. Tout d'un coup, la vitesse de la soucoupe diminue. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.